Bonjour. Voilà, merci d'avoir fait l'introduction. Il se trouve que j'ai oublié un tiers de ma prédication, enfin de mes notes en tout cas, donc je pense que le Seigneur voulait me punir de ce que j'avais dépassé une heure la fois dernière. Donc il s'est dit, on va le faire raccourcir. Ouais, je vais prier. Seigneur, merci pour ton grand amour, Seigneur. Merci effectivement parce que tu nous veux pour toi. Et que finalement, c'est ce qui compte le plus. Ce n'est pas tellement les choses que nous faisons, Seigneur, mais c'est ce que nous sommes qui t'intéresse. Tu nous veux pour toi, tu veux, Seigneur, former en nous Jésus-Christ. Seigneur, afin que toute la gloire te revienne et que tu sois honoré, Seigneur, en tout lieu où se trouve les enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais que nous lisions dans Ésaïe, chapitre 58. Alors, j'ai toujours peur d'aller dans Ésaïe, parce que j'ai le sentiment que Paul a tout fait dans Ésaïe. Je suis sûr qu'il a déjà prêché sur ce verset, mais tant pis. Ésaïe 58, et je vais juste prendre les versets 11 et 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Juste en ce qui concerne Ésaïe, c'est un livre qui a contient 66 chapitres. On peut le diviser en trois grandes parties. Les chapitres 1 à 35 qui sont des prophéties de réprobation de Juda et des nations. La deuxième partie qui va du chapitre 36 à 39 et qui est l'histoire d'Ézéchias, du roi Ézéchias, qu'on connaît bien cette histoire. Et la dernière partie de 40 à 66 qui sont des prophéties de réconfort et de relèvement. Donc ce chapitre et ce verset se situent dans cette troisième partie de réconfort et de relèvement. Ésaïe, je crois, est le prophète le plus célèbre. Il a aussi vécu sous beaucoup de rois, il a exercé sous... Il est né sous Ozias, il a exercé sous Jotham, je les ai plus en tête, Ahab, je crois. Non, pas Ahab. Jéroboam, non? Ézéchias, oui. Manassé, il est mort sous Manassé. Hein. Donc on ne sait pas trop à quel âge, certains disent 90, d'autres 120, mais voilà, 120 c'est le maximum, hein, puisque Dieu a dit qu'au-delà on ne va plus. Ah. Là, on parle d'Ésaïe, donc on est après Abraham. Donc, voilà. En tout cas, ce verset est pour nous. Évidemment, il s'agit là d'un relèvement du peuple de Dieu, du réconfort pour le peuple de Dieu, mais le réconfort pour un peuple, ou le salut pour un peuple, ne peut intervenir que s'il y a le salut individuellement. Et toute parole qui est pour un peuple doit aussi être appropriée individuellement. N'est-ce pas ? C'est pas l'église d'Hasbrouck qui est sauvée. Ce sont les individus dans l'église d'Hasbrouck qui sont sauvés. Nous aurons affaire individuellement devant Dieu. Ce n'est pas le salut multidiniste. C'est un salut individuel. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Cela prouve aussi qu'il s'occupe de nous personnellement. Et non pas comme des numéros, des faces un peu inconnues, mais vraiment comme des gens et des personnalités à part entière. Lorsqu'on commence sa vie avec le Seigneur, on a souvent l'impression, c'est pas une impression, c'est quelque chose qu'on ressent fortement, c'est qu'on on progresse très vite. On a une soif de Dieu, de la connaissance de Dieu, une soif d'apprendre extraordinaire qui nous amène à lire beaucoup la parole, qui nous amène à poser beaucoup de questions, à chercher des réponses, soit dans la parole de Dieu, soit autour de nous en interpellant des gens qui ont de l'expérience. Et on a vraiment le sentiment, en tout cas je me rappelle pour moi-même, que les choses vont très vite. Et qu'on rattrape, on a besoin, surtout si on se convertit sur le tard, on a besoin de rattraper du temps perdu. N'est-ce pas ? Et donc il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, j'ai appris, et ce matin, on a entendu le verset dans Deutéronome 8 qui a été répété, j'ai appris que il y a quelque chose d'important dans notre progression, c'est le temps. Beaucoup plus que les expériences. Or, dans les premiers temps de la nouvelle naissance, ce sont des expériences que nous pouvons relater. Un enfant qui naît et qui commence à grandir progresse ou a le sentiment de progresser très vite parce que entre la position couchée à quatre pattes, à deux pieds, eh bien, le temps est court, il y a une année, en général, certains ça met un peu plus longtemps, mais c'est quand même très court au regard de ce qui reste à vivre. Et lorsqu'on prend un peu d'âge en tant que nouveau-né spirituel, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on vit, cette progression, ces expériences avec le Seigneur, et le Seigneur parle beaucoup aux nouveau-nés spirituels, eh bien, finalement, ce n'est pas grand-chose au regard de l'éternité dans laquelle nous commençons à entrer. Cette éternité, d'ailleurs, sera toute axée sur la connaissance profonde de Dieu, la communion profonde de Dieu, la rencontre permanente et les délices en présence de Dieu. Et donc, si nous pouvons relater des expériences de marche avec le Seigneur, des expériences d'entendre le Seigneur nous parler, nous répondre à des questions, ces expériences sont quand même finalement beaucoup moins importantes que la notion de temps. Souviens-toi du temps passé dans le désert. On on pourrait voir ce temps comme une expérience négative. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est une épreuve, c'est un passage, c'est quelque chose, c'est un temps qui a été utilisé par le Seigneur pour former quelque chose dans le peuple d'Israël. Dans notre verset, il est dit « L'Éternel sera toujours ton guide. » Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Ce que nous avons besoin lorsque nous marchons, ce ne sont pas des expériences sans arrêt, mais c'est d'avoir quelqu'un qui nous guide pour savoir où nous devons aller. C'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous dans toutes les circonstances que notre chemin, dans lequel nous sommes et toutes les circonstances qui vont arriver. Le Seigneur doit être notre guide. Et c'est ça qui nous rassure. Parce que si on prend en référence Israël et son chemin, on sait que il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des moments qui correspondent à des expériences. Mais ce qui était important dans toutes ces choses, c'est que dans la façon dont ils réagissaient, c'était important qu'ils soient guidés par Dieu. Ce qui n'était pas important de savoir comment eux, ils allaient pouvoir réagir. Ce qui était important, c'est qu'ils soient obéissants à la parole de Dieu qui leur indiquait comment il fallait faire pour résister, comment il fallait faire pour avancer, ou ne pas avancer, ou tourner autour des villes pour les détruire, ou combattre réellement, s'il le fallait. Mais ce qui était important, c'était que l'Éternel, ce qui est important, c'est que l'Éternel soit un guide. Il rassasira ton âme. En plus de s'occuper de nous montrer le chemin et la façon de faire, le Seigneur est aussi présent pour nous nourrir. Dans notre vie chrétienne, nous savons que nous devons lire la Bible. Nous savons que nous devons, jour après jour, nous nourrir de la parole de Dieu afin de recevoir des bienfaits pour notre âme, afin de mieux connaître Dieu, de mieux apprendre de lui. Mais il arrive que, après justement ce temps, ces premiers temps, que l'on perde ce goût à la lecture, que l'on perde cette envie de se mettre devant Dieu et de prier. Il arrive que nos prières soient difficiles à articuler, qu'on a l'impression que les choses ne dépassent pas le plafond, que finalement, tout cela, c'était peut-être une belle histoire. Mais que, voilà, le goût n'y est plus. On n'a plus tellement envie. Peut-être que même on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment rencontré le Seigneur ? Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose dans mon cœur? Et là, je ne peux pas répondre à votre place. Mais vous pouvez répondre. Vous pouvez dire si dans ces moments-là, Il y a eu dans votre vie quelque chose qui, à un moment, est venu prendre en charge votre faiblesse. Alors que les questions existaient, alors que le manque d'envie était présent, il y avait malgré tout cette flamme, cette certitude que si moi je suis peu fidèle dans ma façon de faire, Dieu est présent. Et que cette présence est perceptible. Cette présence me prend en charge et m'amène peu à peu à reconsidérer mes voies. M'amène peu à peu à revenir à sa parole, à revenir à vouloir entendre sa voix. Et plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, pour certains, le goût revient. Et lorsqu'on se retourne sur son passé, on s'aperçoit que jamais celui qui nous avait dit qu'il serait fidèle, jamais il n'a manqué dans sa fidélité. On s'aperçoit que il n'est même pas fâché contre nous. Qu'il a toujours été présent, qu'il a toujours fait ce qu'il fallait pour m'éviter les plus grosses catastrophes, pour m'éviter les pires ennuis. Parce que le temps était nécessaire. N'est-ce pas? La difficulté vient de ce que, dans ces situations, nous combattons férocement pour ne pas nous laisser submerger par ces sentiments qui nous culpabilisent. Je ne lis plus ma Bible et c'est terrible. Dieu ne va plus m'aimer. Quelque part, c'est ça qui se passe dans la tête. Dieu ne va plus m'aimer. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus lire votre Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se forcer un peu parfois. D'accord? Mais il y a, dans la vie et dans le parcours du croyant, il y a des temps. Je ne sais pas comment vous les vivez, je sais ce que moi j'ai vécu. Et je sais aussi ce que le Seigneur a fait dans ces choses-là, dans ces temps-là. Eh bien, ces temps, le Seigneur les utilise pour lui. Il les utilise parce qu'il renforce notre foi. Parce que, alors que nous sommes infidèles, nous constatons qu'il reste fidèle. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Pourquoi ? Parce que nous savons alors, au bout d'un moment, nous savons que nous pouvons vraiment lui faire confiance. Et ça a un impact absolument phénoménal sur le restant de notre vie et notamment sur la prière. Il redonnera de la vigueur à tes membres. N'est-ce pas, le Seigneur nous renforce. Il nous a fait naître, il nous a fait croître. Les temps du désert sont arrivés. Mais il vient et il redonne de la vigueur. En fait, jour après jour, n'est-ce pas, Dieu nous prouve sa fidélité. Et il renforce notre vitalité spirituelle pour que nous puissions finalement devenir des hommes et des femmes de Dieu dans lesquels il peut avoir confiance. Dans Galates 4, on lit à ce sujet que l'apôtre Paul en parlant en Galates, il disait, bon, je voulais chercher exactement, mais ce qu'il voulait, c'est que Christ soit à nouveau formé en eux, d'une certaine manière. C'est verset 19, oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Christ soit formé en chacun d'entre nous. C'est là le but. C'est là ce que signifie ce temps que Dieu utilise dans nos vies. C'est là à quoi cela sert, ces moments de difficulté, ces moments parfois longs où nous ne savons pas. Ce sont ces moments que Dieu utilise pour que Christ soit formé en nous. Dans Colossiens 1, 27, c'est la même idée. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Et si on fait une coupe, ça peut faire « Dieu a voulu faire connaître Christ en vous, l'espérance de la gloire. » En réalité, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de faire descendre à l'intérieur de vous toute l'œuvre rédemptrice de la croix. Tout ce que Christ a accompli sur la croix et tout ce que ça représente, Dieu est en train de le faire pénétrer en vous pour que Christ en vous signifie quelque chose. Que ce ne soit pas juste des paroles écrites dans un livre, mais que quand je lis Christ en moi, ça corresponde non pas à une foi d'un ordre quelconque ou à une espérance d'un ordre quelconque, mais à une vérité aujourd'hui. Il y a à mon travail depuis peu une petite jeune fille que je trouvais intéressante du point de vue de son comportement. Et en la questionnant et en apprenant qu'elle ne fêtait pas Noël, j'ai découvert qu'elle était témoin de Jéhovah. Son comportement est très bon. Très intéressant à observer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a de différent d'un évangélique? Qu'est-ce qu'elle a de différent de moi dans son comportement? Nous avons eu l'occasion de discuter et j'ai pu lui dire que ce qui était déterminant en ce qui concerne la foi, ce n'est pas réellement ce à quoi on croit, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que le Dieu que j'adore, celui en qui je me confie, celui à qui je donne toute ma confiance, est-ce qu'il agit quotidiennement dans ma vie? Est-ce que cela fait une différence lorsque je lis dans la parole de Dieu la puissance de Dieu et lorsque je regarde dans mon cœur, est-ce que je lis la même chose? Est-ce que les autres peuvent lire la même chose? Et c'est un élément sur lequel elle est restée silencieuse. Mais j'espère, frères et sœurs, que nous sommes sur ce chemin qui est parfois long, j'en conviens. Mais ce temps, Dieu l'utilise pour que Christ soit réellement formé en chacun d'entre nous et que lorsque nous nous référons à Christ et à sa parole, nous ne nous référons pas à un bouquin, avec tout le respect que j'ai pour la parole de Dieu, mais que nous nous référons à quelque chose qui est réel à l'intérieur de nous-mêmes. Comme le disait Corinne, moi-même, pendant longtemps, j'entendais des gens parler de leur expérience avec Christ. Et je savais que j'étais pas né de nouveau. Parce que ce qu'ils me disaient, ce que j'entendais, c'était comme des messages d'extraterrestres. Ça ne correspondait absolument pas à ce que je vivais à l'intérieur. Et si ce matin, vous avez ce même sentiment, eh bien, il est sûr que le Seigneur Jésus-Christ vous appelle pour que vous lui demandiez de venir à l'intérieur de lui-même, prendre en charge votre vie, afin que vous n'ayez plus à la supporter vous-même, que vous n'ayez plus à vivre jour après jour avec ce poids formidable sur les épaules qui vous empêche de faire les choses les plus simples de la vie, même si vous faites bonne figure. Ce que le Seigneur est en train de faire quand il nous renforce, c'est qu'il nous apprend à nous détacher de nous-mêmes, à mourir à ce que nous sommes, afin que lui puisse vivre en nous. C'est à ça que le Seigneur utilise le temps et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer pendant ce temps qui passe. Vous savez, ce que le Seigneur veut vraiment, c'est que le monde pour nous ne soit plus qu'une sorte d'enveloppe vide, un endroit où il faut bien naître, parce que c'est là notre nature. Il faut bien y vivre, mais il faut que notre cœur soit ailleurs. Il faut que le monde soit crucifié pour nous. Il faut que, d'une certaine manière, comme le disait l'apôtre Paul, vivre ou mourir, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de faire et d'accomplir ce que Dieu veut dans notre vie. Parce qu'en définitive, si le Seigneur travaille comme il travaille, s'il nous fait passer par ces moments qui sont difficiles, s'il y a parfois même des pics de difficultés incompréhensibles, c'est parce qu'il souhaite que nous arrivions dans cet état où nous n'avons plus juste envie de nous occuper de nous-mêmes. Mais notre regard est tourné vers l'autre. Et nous savons que le Seigneur s'est occupé de nous. Vous voyez ? En fait, c'est ça. C'est que tout ce temps où vous grandissez, où il y a une croissance, c'est ce temps où Dieu s'occupe de vous, de votre état. Et puis, c'est ce temps où vous aimeriez vous occuper des autres. Vous aimeriez les aider. Et quand vous apprenez vos problèmes, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes et que ça n'a pas encore été réglé dans votre vie. N'est-ce pas ? Comment aider quelqu'un qui a mes problèmes ? N'est-ce pas, parfois, et notamment, moi je me rappelle lorsque j'étais un tout jeune converti, je pouvais être très critique sur la façon d'être de certains. jusqu'à ce que, le temps passant, je réalise que j'étais pire que ceux que je critiquais et que le Seigneur avait besoin de travailler dans mon cœur, d'adoucir mon cœur, et que de dur et féroce comme un bon germanique, je puisse devenir doux et tendre, même si la plupart du temps les gens préfèrent aller voir Paul que moi, mais bon, ça, Paul est offusqué. Mais je vous comprends d'ailleurs, continuez. Non, c'est une blague. Vous avez compris que c'était une blague. Je vous aime autant que Paul. Peut-être même plus, mais bon, ça se voit pas. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Avec toutes ces bêtises. En réalité, on ne peut pas, pendant ces premiers temps, réellement s'occuper des autres. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible que de prier pour quelqu'un alors que lorsqu'on prie, on a l'impression qu'on prie pour soi. Ça n'empêche pas qu'on participe, ça n'empêche pas qu'on soit là et qu'on fasse les choses que le Seigneur nous présente. Mais il y a nécessairement des situations dans lesquelles on est incapable d'agir, incapable de faire, de conseiller, d'aider de façon efficace. Si d'abord le Seigneur ne nous a pas fait passer dans des mêmes chemins ou dans des chemins similaires, vous comprenez? Parce qu'il est dit plus loin, tu seras comme un jardin arrosé. C'est terrible parce qu'il est, moins 5. J'ai oublié les deux tiers de la prédication, je n'ai pas fait un tiers du tiers manquant. Vraiment, le Seigneur vous a sauvé de quelque chose aujourd'hui. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je suis tellement content que ce ne soit pas marqué. Tu seras comme une citerne crevassée qui sans arrêt va se vider dans la terre. N'est-ce pas? Ce serait triste, José. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est qu'il est en train de bâtir, de construire Christ en vous. Et en faisant cela, il vous remplit en même temps du Saint-Esprit. Alors je sais, on peut avoir ce sentiment que c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça une fois et qui, voilà, vous êtes rempli. Mais il y a aussi ce temps que Dieu utilise et où il vous construit et en même temps vous remplit de lui-même. Et à mesure que ça, l'édifice monte, vous êtes rempli, et vous êtes rempli, et vous êtes rempli jusqu'au jour où cela déborde. Et c'est de cela dont parle Jésus, lorsqu'il dit « Venez à moi ». Lorsqu'il dit à la Samaritaine, je ne sais plus ce qu'il lui a dit, mais il lui a dit clairement que cette eau qu'elle boit ne peut pas la satisfaire, ne peut pas la désaltérer. Mais si elle boit de l'eau que lui, Jésus, lui donnera, elle n'aura plus jamais soif. Et c'est cela que Christ accomplit. C'est qu'il veut vous donner, me donner, une eau qui me désaltère quotidiennement, à plus soif. Mais aussi, faire en sorte que je sois débordant pour donner autour de moi. Être capable de recevoir pour moi et en même temps de donner. C'est Jean 4, 14, hein, c'est ça? Et parce qu'il parle d'une eau jaillissante. Hein. Jésus lui répondit à la Samaritaine, « Donc quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons prêcher si nous sommes une citerne crevassée? Si nous sommes une citerne crevassée, nous allons prêcher du vide, de la vapeur, quelque chose qui disparaît comme cela, quelque chose qui ne rentre pas dans le cœur des hommes et des femmes qui écoutent, quelque chose qui n'agit pas dans leur quotidien. Et je ne parle pas de la prédication, je parle de votre parole lorsque vous vous adressez à quelqu'un. Qu'est-ce que nous pouvons conseiller si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons prier pour l'autre? Parce que, et je vais finir là-dessus, l'objectif de Dieu, c'est de nous utiliser. C'est que nous soyons de bons et fidèles serviteurs. Que nous fassions ce qu'il nous montre et ce qu'il nous demande, sans discuter, sans réfléchir sans arrêt, sans reposer les mêmes questions. Que nous soyons de ceux qui désormais mangent de la viande et ne boivent plus le lait des nourrissons. Que nous soyons remplis de compréhension, de tendresse, d'affection pour nos proches, pour ceux que le Seigneur nous donne dans la famille, au travail, ici dans l'Église. C'est là l'ambition que Dieu a pour nous. Que les nôtres rebâtissent sur d'anciennes ruines. Que les fondements soient relevés. Que les brèches soient réparées. Que les chemins soient restaurés. Que le pays soit habitable à nouveau. N'est-ce pas? C'est là le pourquoi de notre formation. C'est là ce que le Seigneur a en objectif pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons utiles pour les autres. Que nous-mêmes soyons arrivés à une sorte de maturité spirituelle, que nous ayons une sorte de carrure spirituelle, d'envergure spirituelle. N'est-ce pas? Et que de cela, le Seigneur peut se saisir à chaque instant et savoir qu'il peut confier quelque chose, qu'il peut confier quelqu'un, qu'il peut envoyer et que la réponse sera toujours « Oui, Seigneur, je ne discute pas avec toi, je fais. » Et en faisant, les fruits existent. Ce ne sont pas des fruits que l'homme va créer. Ce sont des fruits qui découlent de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Parfois, on peut travailler, semer, faire des choses pendant des années, accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu et ne pas en voir les fruits, ne pas en récolter les fruits. Pour un homme qui n'a pas été formé en qui Christ n'a pas été formé. C'est frustrant. C'est inacceptable. Pour un homme qui a été formé par Dieu, cela n'a aucune importance. Parce qu'il sait que le Seigneur agira en son temps avec quelqu'un d'autre, mais il sait que le Seigneur agira. N'est-ce pas? Je crois qu'on peut dire que l'exemple de cette église est celui-là. Monsieur Cradock a passé beaucoup de temps à semer. D'autres un peu avant lui, Keith également. Et le résultat n'est pas nécessairement un succès absolument phénoménal d'un point de vue quantitatif. Mais il y a cette certitude qui a existé à chaque étape de la vie de cette Église. C'est que les hommes que Dieu avait mis là avaient été formés par Dieu. Christ avait été formé en eux. De sorte à ce qu'ils ont accompli une œuvre qui ne dépendait pas du visible, mais qui dépendait de la certitude de l'invisible, d'une certaine manière. Voilà. Et je crois qu'il nous faut prier pour que les choses continuent de cette façon-là, et que ça reste le processus normal de cette Église. Et que même s'il y a des tribulations qui peuvent arriver, s'il y a des difficultés, eh bien nous ne perdions pas de vue que le Seigneur agit avec le temps et non pas avec des événements, une succession d'événements ou d'expériences, mais avec le temps. Vous regardez les informations, vous voyez que très souvent, les gens qui ont vécu des grandes catastrophes, qui ont vécu des décès ou des tragédies dans leur vie, créent des associations, montent des groupes, font voter des lois, et la motivation est toujours la même, c'est pour que jamais plus cela ne se reproduise. Et vous ouvrez votre journal le lendemain et vous voyez que systématiquement cela se reproduit. Frères et sœurs, si nous voulons que dans nos vies, jamais plus les mauvaises expériences ne se reproduisent, alors nous devons laisser de côté tout ce qui nous appartient, tout ce que nous avons, ce à quoi nous avons mis, ce sur quoi nous avons mis une importance, tout ce qui est de nous-mêmes, que nous soyons crucifiés au monde. Et que Christ soit formé en nous. Et alors, cela ne se reproduira plus. Les échecs, les continuelles difficultés, tout cela sera juste du passé. Voilà. Seigneur notre Dieu, c'est merveilleux de pouvoir regarder à toi. De savoir, Seigneur, que tu nous regardes individuellement et que tu accomplis ton plan jour après jour dans nos vies. Seigneur, nous voulons accepter le temps que tu accordes à chacun d'entre nous et même, Seigneur, nous voulons te remercier pour le temps, te louer, te rendre grâce, Seigneur, que même dans ces étapes où nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Nous voulons te remercier pour ce temps, ô Dieu, que tu passes à nous convaincre de ton amour réel pour chacun d'entre nous. Te remercier, Seigneur, pour ce temps où tu veux rendre l'œuvre de la croix réelle et existant à l'intérieur de nous-mêmes, Seigneur. pour que Christ soit formé en nous. Seigneur, et que partant de là, nous puissions être des serviteurs obéissants, soumis à ta parole, révélant la gloire de Dieu partout où ils sont placés. Seigneur, je nous confie chacun à toi afin que tu continues à nous parler cette semaine, que tu continues à remplir nos cœurs, Seigneur, et que nous ne nous débattions pas alors que tu veux notre bien. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.